frères, mes sœurs, les remerciements, les louanges, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le parfait dans son essence. Le parfait dans ses noms et attributs. Le parfait dans tous ses actes. Qui tous oscillent, n'en déplaise aux ignorants, entre sa miséricorde, sa piété, sa bienveillance vis-à-vis de ses créatures, celui qui a tout créé sans besoin, et sa sagesse, sa science, et sa justice, qui a dicté, subhanahu wa ta'ala, qui va récompenser les bienfaisants par mieux que ce qu'ils attendaient. Mais c'est grâce à lui que tout bien arrive et qu'il récompensera également tout un chacun les malfaisants parce qu'il mérite, à moins que sa miséricorde dévance leur destin et qu'il ait changé leur destin 50 000 avant qu'il ait créé les cieux et la terre, qu'il les ait incités à revenir vers lui repentant pour qu'il leur pardonne et qu'ils reviennent vers lui, subhanahu wa ta'ala. Nous le louons. Nous revenons vers lui repentant. Et tout fils d'Adam est soumis à l'erreur, le meilleur d'entre eux. Comme l'a dit le prophète sallam, c'est ceux qui se repentent. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et si Allah s'en prenait à ses créatures, pour ce qu'ils font, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Il est le miséricordieux par essence, par excellence. On ne saurait jamais le louer comme il se doit, subhanallah. Celui qui n'a pris ni compagne, ni allié, il est unique, il est seul. La solitude ne convient, comme le dit le poète, qu'à Allah seul. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas de comparable. Il n'a pas de pareil. Loin de lui, ce qui lui attribue des ignorants d'avant et d'aujourd'hui. Celui qui le connaît, il l'aime. Tout procède de ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de bienfaits qui ne viennent pas d'Allah. Nous lui demandons de bénir le meilleur des hommes, Mohammed ibn Abdullah, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. Par lui, Allah a ouvert le cœur de l'aveugle, de l'égaré. Il a guidé les pas de celui qui est loin du chemin. Il a ramené vers lui le pécheur repentant. Et il a élevé vers lui, subhanahu wa ta'ala, les œuvres du matin avant celles du soir et celles du soir avant celles du matin. Qu'Allah bénisse ce prophète qui n'a rien laissé de bien sans nous l'indiquer et qui n'a pas laissé une porte du mal sans nous l'indiquer de la part de son Seigneur, il ne parlait pas de lui-même. C'est lui qui nous a enseigné ce qu'Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, entre autres, qu'il n'y a pas de meilleur jour de l'année dans l'année. Il n'y a pas de meilleur jour que les 10 premiers jours du dernier mois de l'année de l'Hijjah, le mois du pèlerinage. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont demandé même où les œuvres plutôt sont aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les meilleurs jours pour les bonnes œuvres sont ces jours-là, les 10 premiers jours du dernier mois de l'année de l'Hijjah, le mois du pèlerinage. Des compagnons, qu'Allah les bénisse, et ils étaient des gens qui recherchaient le bien. C'était leur principale préoccupation depuis qu'Allah les a guidés et a fait d'eux les meilleurs hommes, la meilleure génération, les meilleurs hommes après les prophètes, qu'Allah les bénisse tous. Ils ont demandé à Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, voulant plus d'explications, plus de détails, pour pouvoir l'appliquer, même plus que le combat pour Allah. Il a dit, même plus que le combat pour Allah, sauf si quelqu'un sort avec armes et bagages, on dirait en français, avec sa vie, qui sacrifie sa vie, ses biens et ne retourne pas à sa famille. Ce hadith est authentique, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ainsi donc, c'est Allah qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. C'est lui qui donne à chaque chose son poids. Ce n'est pas la météo qui différencie les jours. Ce n'est pas ce que tu aimerais. C'est pas ton état psychologique ou physique qui différencie les jours. Oh, aujourd'hui, il fait beau. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a déterminé toute chose, qui a donné à chaque chose sa valeur. Ainsi, il a préféré la nuit du Qadr à toutes les nuits. Il a préféré le vendredi à tous les jours de la semaine. Il a préféré les mois sacrés aux autres 8 mois non sacrés. Et il a préféré ce mois qui est le mois dont nous parlons, Zulhijja, qui rentrera, inch'Allah, bientôt. Dans le compute, en tout cas dans les calculs astronomiques, on dit que ce sera mardi prochain ou mercredi. Cela dépendra, bien sûr, de la détermination de la vue de la Lune et de ce qu'on nous en dira, puisque ce sont les autorités saoudiennes qui vont déterminer le jour de Arafat, qui est le 9 de ce mois, un jour béni, comme on le verra, inch'Allah, une autre fois. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on saura. Mais d'ores et déjà, on doit se préparer. Si on nous annonçait qu'il y a des bonnes affaires, je suis sûr qu'on aurait fait le catalogue, regardé les heures d'ouverture et tout le reste. Et la communauté, malheureusement, est connue, entre autres, pour ça. Qu'elle précède même les jours des soldes. C'est la veille qu'ils y vont, sachant que les meilleures affaires se font dès le début. Si on nous disait qu'entre nous et la mort, et c'est certainement vrai, il reste que quelques jours. Si on nous disait, si chacun d'entre nous savait quand est-ce qu'il allait mourir, plus les jours, à moins que on ne soit pas croyant, plus les jours vont s'approcher, plus on va se précipiter. Et pourtant, nous avons été assez avertis. Si on savait que c'était ce soir, et Allah seul sait qui vivra ces jours bénis, les Dhul-Hijja, si on savait que c'est ce soir, qu'elle va rencontrer Malak al-Maut, on abandonnerait tout ce qui n'est pas important. Qu'est-ce que ce monde et ce qu'il contient? Il ne représente pas, comme l'a dit le prophète sallam, chez Allah subhanahu wa ta'ala le poids de l'aile d'une mouche. Autrement, il n'en aurait pas fait profiter le non-croyant un seul instant. As-tu eu le temps, comme tu l'appelles? C'est le temps qui se tue. Et certainement, tu vas arriver à ton terme qui est fixé. Alors avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné combien d'occasions, parmi lesquelles tu as devant toi, inshallah, si Allah te fait miséricorde et te compte parmi les gens qui vont vivre ces 10 jours de Dhul-Hijja, tu as devant toi une occasion unique qui ne reviendra pas. Que faisait le meilleur des hommes pendant ces jours? Il était celui qui se rappelait le mieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Et certaines de nos mères des croyants, ses épouses ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait du 1er au 9, le 17 ans, le jour de l'Aïd, où il est interdit de jeûner, comme vous le savez. Du 1er, dès que le mois rentrait, il jeûnait. Et chaque fois qu'on a voulu, qu'on a aimé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de jeûner, il jeûnait. Il n'attendait pas ces jours-là. Et le jeûne n'a pas d'équivalent. Et chaque fois qu'on voulait le voir déjeuner, on le trouvait en train de manger, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il est bon de jeûner ces jours, parce que le jeûne est une des œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Pour ceux qui ne pourront pas jeûner, pour une raison ou pour une autre, il y a d'autres occasions, alhamdulillah. Ces jours sont les jours du rappel, du dhikr, de l'évocation d'Allah. Tous les jours sont jours d'évocation d'Allah. Il n'y a pas, dans l'existence, dans le ciel ou sur la terre, des créatures qui ne cessent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à tout moment. Simplement, tu n'es pas attentif. Ce n'est pas les yeux qui sont aveugles, c'est le cœur. On dit que, dans le tafsir, l'explication du Coran, on dit que Dhunnun, alayhi salam, Yunus, et que personne ne pense qu'il est meilleur que Yunus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé par le refus de son peuple qui est parti en colère et qui a été jeté dans la mer par une décision sage. Qu'Allah avait décrété, subhanahu wa ta'ala, que sa préscience, bien sûr, avait inclus, et il sait toutes choses, subhanahu wa ta'ala, et que sa sagesse, donc, a voulu, et que sa volonté a réalisé, il a été avalé par le poisson, la baleine, dit-on. On dit que dans le ventre de la baleine, il a entendu les poissons en train de louer Allah. Et que c'est ce qui lui a inspiré, dit certains savants, l'invocation que vous connaissez, qui est une invocation acceptée, la ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Quand il était dans le ventre de la baleine, quand il a dit, il n'y a de Dieu digne d'adoration, si ce n'est toi, ya Allah, je faisais partie des injustes. Et c'est à partir de ce moment-là, que Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a inspiré ça, l'a délivré, que la baleine l'a amené jusqu'à la terre ferme, et Allah a fait pousser ce qu'il a fait pousser. Sa miséricorde est tout simplement infinie. On ne saurait jamais le louer comme il le faut. Quand il y a un cœur qui est vivant, tout ce que tu vois te rappelle Allah. Tout ce que tu entends, tu rappelles à Allah. Même ce que tu ne vois pas, tu rappelles à Allah. Que ce soit l'éprouvé physiquement ou l'éprouvé mentalement, ils sont tous éprouvés. Quand tu vois le riche, tu ne te diras pas « si j'étais à sa place ». Non. Alhamdulillah que je ne suis pas là à sa place. 500 ans, les pauvres rentreront avant les riches. Si tu étais à sa place, Allah seul sait ce que tu ferais de ce qu'il t'a donné. Et tu ne bougeras pas d'un pas. Yom al-Qiyamah, avant de rendre compte de là où tu as eu de l'argent et comment tu l'as dépensé. Sois remerciant. Et beaucoup ont beaucoup moins que toi. Et donc le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui occupe les meilleurs. Quels sont les meilleurs? On a demandé au prophète sallam, qui ne parlait pas de lui-même, il dit, c'est ce qui se rappelle le plus Allah. On dit parmi les gens qui prient. Il a dit, alayhi salam, c'est ce qui se rappelle le plus Allah. Combien sommes-nous nombreux dans la prière à ne se rappeler que le premier takbir et le salam? Qu'est-ce que tu dis dans la prière? Tu t'en souviens même pas, au nom. Et tu n'as de la prière, comme l'a dit le prophète sallam, que le moment où tu es concentré sur le rappel d'Allah. Toutes les adorations, en réalité, ont été ordonnées pour que tu te rappelles Allah. Et donc, cette concentration d'adoration pendant ce mois béni, notamment le pèlerinage, qu'Allah accompagne nos pèlerins et les récompense par le meilleur, font partie, donc, de ces mois bénis, de ces jours bénis. Et donc, toi, tu peux t'y associer en te rappelant souvent Allah. Ceci n'a pas échappé au meilleur des hommes après les prophètes, alayhi salatu salam. On cite Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ainsi que Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, qu'ils allaient au marché. Ils allaient au marché, pas pour faire ce que tu penses, pas pour profiter des soldes, mais oui, profiter des soldes. Ils allaient au marché juste pour se rappeler Allah, et comme Anas le faisait, par exemple, dans la tente Amina, il espérait la récompense d'Allah. Il disait « Labaïk Allahumma labaïk » quand il était pèlerin, pour que les gens qui l'ont entendu se rappellent Allah et qui le disent, et la récompense lui sera certainement attribuée, et sans rien amoindrir à la récompense de ceux qui l'ont dit, et remontant tout ceci jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le simple fait que tu indiques, celui qui indique du bien à quelqu'un, celui qui fait ce bien, il aura la récompense, et celui qui l'a indiqué, certainement associé à la récompense. Ils allaient au marché pour cela. Il m'a été raconté qu'un homme, je ne sais pas dans quel état il est aujourd'hui, qu'Allah le récompense par le meilleur, il prenait sa mobylette, pas pour faire le tour du quartier comme certains le font. Tous les matins, quand il se levait, il avait un petit étable au marché. Avant d'aller au marché, il allait à l'hôpital. Il faisait le tour de toutes les chambres. Il était connu de tous les hôpitaux, il était connu de tous les infirmiers. Il faisait le tour de toutes les chambres, en train de demander comment ça va. Ça va mieux, qu'Allah te donne la guérison, etc. Tous les matins. Et ensuite, il allait s'installer pour gagner un peu et un peu de matériel. Et demain, quand tu vas demander où il est, on te dira peut-être il est au paradis depuis longtemps. Toi qui penses faire beaucoup. Il y a des choses simples. Wallahi, c'est le cœur. Il y a des choses simples. Passer le salam à ton frère, le sourire à ton frère, c'est une sadaqa, comme l'a dit le prophète. Économise-le si tu veux. Allah se passe de toi, il se passe de tout. Si vraiment c'est Allah qui est ton Seigneur que tu adores, si c'est l'au-delà dans lequel tu espères et auquel tu crois, comment tu peux perdre ton temps? Comment tu peux passer à côté des choses simples, mon frère, ma sœur? Toute chose visant la face d'Allah qui a été légiférée est comptée comme sadaqa. Au point que le prophète sallam a dit subhanallah sadaqa, alhamdulillah sadaqa, jusqu'à l'acte conjugal. Il a dit c'est sadaqa. Et on dit, ya Rasulallah, comment cela se fait-il? Alors que c'est nous qui en profitons. Il a dit, si vous l'aviez fait dans le haram, est-ce que ce ne serait pas un péché? Ils ont dit, certes. Il a dit, alors celui qui recherche, c'est que Allah lui a permis dans le halal, ça lui a compté comme une sadaqa. Deux mots, a dit le prophète sallam, léger sur la langue, et lourd dans la balance, et aimé du miséricordieux. Qu'est-ce que tu recherches? C'est que Allah aime et agrée, comme tu aimes à le dire. Si c'est vraiment ça, deux mots, léger sur la langue, lourd dans la balance, yom al-qiyama, au jour du jugement dernier, et aimé, et cela suffit certainement, par le miséricordieux, c'est quoi? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. C'était difficile? Oui. Et c'est dommage pour toi. L'un de vous serait-il incapable de lire le tiers du Coran, a dit le prophète sallam? Ils ont dit, qui d'entre nous, en une nuit, qui d'entre nous pourrait le faire? Il a dit, Kuluhu Allahu Ahad, et le tiers du Coran. Tu en es incapable? Toi qui dis, moi je sais pas lire, moi je sais pas lire. Tu es incapable de lire Kuluhu Allahu Ahad jusqu'à la fin, trois fois pour que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, t'accorde la récompense. Et si tu savais ce qu'il a en devers lui, tu n'aurais jamais répété. Et tu ne serais même pas étonné. Parce que c'est lui qui t'a inspiré pour ensuite te récompenser. Qul huwallahu ahad, c'est le tiers du Coran. Tu serais incapable de sortir d'ici. Avant d'arriver à la porte, tu as au moins lu trois fois qul huwallahu ahad. L'équivalent du Coran. Qu'Allah nous guide vers ce qu'il aime et agrée. Tout ce que tu feras dans les liens de parenté, c'est les meilleurs jours. Ce que tu donneras, même à une espèce quelconque vivante, à manger, à boire, ça te sera compté comme une bonne action. Et ces jours donc sont à nos portes. Celui qui ne peut pas jeûner, celui qui ne va pas forcément au marché, sur sa route, sur son lieu de travail, dans son lit, pourrait quand même se rappeler Allah, ses bienfaits d'Allah, oh, parmi lesquels le meilleur étant la foi qu'il t'a donnée. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Parmi les choses qui comptent parmi les bonnes œuvres et les meilleures des bonnes œuvres sont certainement celles qui sont faites dans ce mois béni. Il y a le meilleur d'entre eux, le jour meilleur de ces 10 jours étant le 10, qui est le jour de l'Aïd al-Adha, comme son nom l'indique, le jour du sacrifice, commémorant la fin du pèlerinage qui lui-même est destiné à se rappeler les bienfaits d'Allah sur Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl, mais sur la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur l'humanité en général, en particulier pour ce qu'Allah a guidé et leur a donné, ce qu'il donne aux gens qu'il aime, à savoir la foi. Et donc Ibrahim alayhi salatu salam, et il est le père des musulmans, millat abikum Ibrahim wa sammakum muslimina min qabl, et celui qui s'est soumis à Allah, et certainement cette soumission nous a enseigné ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi il nous a créé, à savoir l'adorer sans rien lui associer. Quand lui et son fils se sont soumis à Allah, et bon gré mal gré, et soumis à Allah tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, quand les deux se sont soumis, Allah subhanahu wa ta'ala a levé l'épreuve des deux et leur a accordé son bienfait et son amour dans ce bon monde, dans l'au-delà. Et ensuite, il leur a fait offrande d'un bélier qu'ils ont sacrifié. À cet exemple, les descendants d'Ibrahim, descendants, j'entends, spirituels, d'Ibrahim, alayhi salam, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont perpétré cette tradition, à commencer par le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur acte pieux ce jour-là, le jour du sacrifice, c'est de sacrifier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Soit un bélier, soit une chèvre. Il est également possible de sacrifier une vache ou un chameau. Les deux derniers, on peut s'y associer. 7 personnes peuvent s'associer pour l'acheter, le sacrifier. Et quant aux deux premières, le mouton, le bélier et la chèvre, c'est une seule personne. On n'a pas le droit de s'associer, comme souvent on l'entend, en tout cas en question. Est-ce que je n'ai pas les moyens de sacrifier une bête, puis-je m'associer avec ma belle-mère, ou puis-je m'associer avec un ami pour le diviser? Tu ne vois que la viande, ni le sang, ni la viande n'atteint Allah. Mais c'est la piété qui vient de là. Si tu n'as pas les moyens, alhamdoulilah, tu n'es pas chargé de le faire. Par contre, si tu as les moyens, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'est pas serré, celui qui a la capacité de sacrifier une bête ce jour et qui ne le fait pas, alors qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une obligation pour celui qui peut. Pour chaque famille musulmane, il ne s'agit pas de chacun des membres, ni
chacun des personnes adultes, pour chaque famille musulmane qui peut, il faut sacrifier une bête. La récompense est déjà écrite avant même que la première goutte ne tombe. Et ce n'est pas l'amour du sang, contrairement à ce que les non-musulmans, des non-musulmans plutôt, peuvent penser. C'est l'amour d'Allah qui doit t'amener à cela, à faire ce sacrifice. Et qu'Allah fasse miséricorde à celui qui disait, quand on était dans les Algécos là-bas, au cours d'une conférence, que les musulmans réalisent que quand nous sacrifions, c'est une permission d'Allah de prendre la vie d'un animal pour pouvoir se nourrir. C'est une permission. On doit remercier Allah pour ça. On ne doit pas chercher, comme beaucoup d'entre nous malheureusement, à manger, quelle que soit l'origine, et à gaspiller comme beaucoup d'entre nous le font, en particulier pendant le Ramadan. C'est une permission de prendre la vie d'un animal pour toi sauver la tienne. Remercie Allah pour ça et épargne ce que tu peux épargner. Et donc quand ceci est fait pour Allah, certainement la récompense est énorme. Le prophète sallam a dit, il n'y a pas de poil, il n'y a pas de sang qui ne soit pas restitué au jour du jugement dernier. Et la bête viendra entière comme témoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça, son amour est certainement beaucoup plus grand. Et donc, si tu ne le fais pas, au moins délègue-le, ceci est permis. Mais à condition, bien sûr, que tu le délègues, pas pour ceux qui ont leur chambre froide pleine en attendant, je commande le mouton de l'Aïd. Non. Cette commande, si parce que tu ne peux pas matériellement le faire, ou tu es contraint de ne pas pouvoir le faire, ou tu ne trouves pas dans ce qui a été prescrit, et ce qui a été prescrit, c'est le meilleur. Qu'Allah nous pardonne. On donne à Allah ce qu'on n'aime pas. Quand tu vas aller regarder un cheptel, tu vas demander le moins cher. Le moins cher, souvent. Alors qu'il n'est pas permis. Allah n'accepte pas. Il se passe de tout. Il est le suffisant, le seul, suffisant par lui-même. Il n'a besoin de rien. Quand tu donnes à Allah, quand tu sacrifies pour Allah, quand tu donnes quoi que ce soit à Allah, c'est le meilleur que tu dois choisir. Donc la bête qui est malade, qui est borgne, qui a quelques défauts physiques évidents, tu n'as pas à le sacrifier. Allah ne l'accepte pas. Il n'en a pas besoin. Donc tu dois choisir la meilleure. Et tu dois demander à la personne que tu délègues, un boucher pieux, de qui on pense du bien, que la personne ne sacrifie qu'après la prière de l'Aïda. Que la personne choisisse la meilleure bête. Parce que tu attends d'Allah quoi? Le meilleur. Et Allah a ordonné l'excellence en toutes choses. Et toi, tu vas sacrifier un agneau de moins de 6 mois. Ceci n'est pas accepté, sauf si tu n'as pas le choix. Le mouton, les ovins, c'est 1 an à peu près. Entre 6 et 1 an. Quant à la chèvre, les caprins, c'est entre 1 et 2 ans. 1 an minimum. Etc. Et la meilleure des bêtes que tu dois sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala et dont tu vas distribuer, on n'est pas encore à ce niveau. C'est juste pour que ce choix, que tu sois conscient de ce que tu vas avancer vers Allah, et ça fait partie de la, c'est la meilleure des œuvres, le meilleur des jours de l'année qui est le jour de l'Aïd. Et toi qui t'es projeté pour faire ceci, tu t'associes à ceux qui sont ou qui seront au pèlerinage ce jour-là, qui seront certainement dans le meilleur lieu sur la terre, Makka et le Haram, en train d'invoquer leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, ils auront ce jour-là certainement quitté l'état de sacralisation, l'Ihram. Tu vas t'associer avec eux, ce sont tes frères. En t'abstenant, si tu as décidé de sacrifier une bête pour Allah, et Allah se passe de tout, en t'abstenant, dès le premier jour du Dhul Hijjah, c'est-à-dire une fois mardi ou mercredi, tu t'abstiens de couper tout poil et tout ongle. Tu t'associes comme ceci est interdit en état de sacralisation parce que tu dois sacrifier. Si tu délègues aussi, disent les savants, c'est pareil. C'est pas le boucher qui a à ne pas se couper les ongles, c'est toi. Jusqu'à ce que tu sois sûr que la bête a été sacrifiée à ce moment, tu peux te raser les cheveux, bien sûr, tu peux te couper les ongles, etc. Et ça, ça fait partie de la sunna du prophète sallam, qui est la meilleure façon de vivre, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a indiqué. Et donc, donner à Allah cette occasion, prêter à Allah ce qu'il nous a donné, certainement, cela fait partie de l'intelligence humaine, et l'intelligence du croyant en particulier, en vue de sa satisfaction, en vue de son amour, subhanahu wa ta'ala, et celui qui en est privé de tout bien.